Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci, Sauti.
Les impies m'ont guetté pour me perdre, mais j'ai considéré vos enseignements, Seigneur. À toute perfection, j'ai vu une limite, tandis que votre loi est vaste à l'extrême. Mes très chers frères, c'est parce qu'elle a bien voulu habiter parmi nous, de par la belle relique que nous avons d'elle, que nous avons l'honneur de considérer Sainte Agnès, Vierge et Martyre, comme la patronne de notre oratoire et même de notre communauté. Nous avons cette grâce immense de pouvoir la fêter comme titulaire de notre oratoire et nous deux comme protectrice en général. Cette sainte n'est pas la moindre d'entre toutes les saintes parmi les glorieuses hôtes de la cour céleste. Et ce n'est pas une petite faveur que pour nous que de pouvoir jouir de son assistance. Que Dieu soit béni et soit loué pour cette grâce que nous avons de pouvoir vénérer Sainte Agnès comme notre patronne. Nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, à propos de Sainte Agnès, et certaines choses pourront être démises au point sur certains contresens, comme vous allez le voir, mais bien sûr l'essentiel sera l'édification du peuple de Dieu. Nous verrons dans un premier temps comment il faut parler des saints selon l'esprit de l'Église. Et nous verrons aussi dans l'histoire de Sainte Agnès ce que sous-tend la violence des propos de la sainte. Deuxième point, nous verrons que c'est Dieu lui-même qui fait ses saints et ses martyrs. Et cela nous amènera à nous pencher sur l'oraison qui est très belle et qui nous enseignera, je l'espère, plusieurs choses. Nous verrons pourquoi Dieu choisit les choses faibles pour faire éclater sa gloire. Et nous verrons à ce propos quelques erreurs et contresens fréquents que l'on fait sur ce verset, sur ce principe, et nous verrons comment l'action de Dieu fonde l'ordre naturel et le fortifie. Et enfin, nous terminerons en voyant comment et pourquoi Sainte Agnès est dite par les auteurs supérieurs aux séraphins. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Dans la deuxième partie de l'introïte, il est dit « Heureux ceux qui sont parfaits dans la voie, qui suivent la loi du Seigneur. » Heureux ceux qui sont parfaits dans la voie, qui suivent la loi du Seigneur. Mes très chers frères, c'est insulter aux martyrs que de parler d'eux comme s'ils étaient des victimes, les victimes des hommes méchants. C'est une façon de parler des martyrs qui est absolument inconnue de l'Église, et je ne dis pas simplement de l'Église primitive, mais de l'Église de tous les temps, sauf évidemment de l'Église, avec des guillemets, de notre époque, où on parle des martyrs d'une façon qui est tout à fait insultante. Alors certains, comme Benoît XVI, le faux pape, avaient dit que c'était des témoins, les martyrs de la liberté de penser, ce que c'était donc c'est vraiment faire injure aux martyrs que de les associer à la liberté religieuse. D'autres disent que les martyrs sont victimes d'injustice et que si dans d'autres circonstances, etc., ils auraient été épargnés, etc. Tout ceci, et c'est une injure faite aux martyrs. Les martyrs sont glorieux parce qu'ils sont martyrs, justement. Et ils sont martyrs, non pas en dépit d'eux, en quelque sorte, mais ils le sont de par la volonté de Dieu, et ils le sont volontairement. De telle sorte que même si les instruments de leur martyrs ont été bien souvent des hommes méchants, ou égarés, des païens, ou autres, eh bien, il se trouve que ce n'est pas ça qui importe. Peu importe que les méchants aient été méchants envers eux, ce qui fait la gloire des martyrs, c'est qu'ils ont donné leur vie pour l'amour du Christ. Heureux ceux qui sont parfaits dans la voie, qui suivent la loi du Seigneur. La loi fondamentale du christianisme étant la charité, seuls les martyrs peuvent être dits ayant accompli littéralement les paroles de notre Seigneur à propos de la perte de la vie. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Les martyrs non seulement n'ont pas perdu leur âme, mais encore, grâce à des causes secondes, ils ont accompli l'acte héroïque de la charité en sacrifiant leur vie pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc insulter aux martyrs que de parler d'eux comme étant des victimes. L'Église n'a que des paroles de triomphe quand elle évoque la mort des martyrs, ou plutôt, elle ne parle jamais de la mort des martyrs, elle parle plutôt de leur naissance au ciel, leur nativité. Le martyr commence à être dans la gloire de Dieu, dans la mesure où le chrétien commence à être dans la gloire de Dieu, dans la mesure où il subit le martyr, de telle sorte que les martyrs non seulement ne sont pas des victimes, mais encore ce sont des triomphateurs. Ils ont triomphé du monde, de la chair et du diable. Sainte Agnès est une des martyrs les plus glorieuses que l'Église ait à honorer. Très brièvement, vous savez que je résume sa vie, vous savez que c'était une jeune fille de 13 ans qui était de famille, d'une des familles les plus nobles de Rome. Ses parents étaient chrétiens et si vous vous souvenez, nous avons vu l'année dernière que si elle a été cette martyre exceptionnelle qui a fait l'admiration de tous les temps, de tous les pères de l'Église, de tous les grands, de tous les papes, de tous les chrétiens en un mot, c'est en amont de la gloire et de l'œuvre de la grâce en elle, c'est que ses parents étaient chrétiens et l'ont élevée selon les principes du christianisme d'une façon très conséquente et très droite, de telle sorte qu'à 13 ans, eh bien, la grâce de Dieu a pu s'emparer de cet enfant chrétienne, de parents chrétiens, et faire d'elle le miracle de la grâce qu'elle est. Sainte Agnès, donc, était de famille noble, ses parents étaient chrétiens. Et il se trouve que, comme beaucoup de jeunes filles de tous les temps, eh bien, elle s'était consacrée à Dieu. Elle avait demandé à l'Église de la consacrer à Dieu, de telle sorte que, à l'époque, les couvents, les monastères n'existaient pas encore en tant que tels. Eh bien, de telle sorte qu'elle pratiquait cette consécration, cette vie de consécration, dans la maison de son père, qui était son protecteur naturel. Il ne faut pas l'oublier. Sainte Agnès n'est pas une jeune fille chrétienne confrontée à la question du mariage. Sainte Agnès est une vierge chrétienne consacrée à Dieu, et c'est une chose extrêmement attestée. Il y en avait un très grand nombre dans l'Église. Aujourd'hui, il y a les religieuses, mais autrefois, c'était légèrement différent. C'était la même chose, légèrement différent. Donc, Sainte Agnès était véritablement consacrée formellement à Dieu, de telle sorte qu'elle avait épousé le Christ, comme les religieuses qui prennent le voile, de telle sorte que son attitude par rapport à ces païens qui lui ont demandé sa main ne s'explique que par rapport à ce véritable mariage, cette véritable consécration au Christ qui était son fait. Elle ne s'est pas improvisée chrétienne, elle ne s'est pas improvisée consacrée à Dieu parce qu'elle ne voulait pas être mariée, comme nous le verrons bien. Nous le verrons bientôt. Donc ici, elle est dans la maison de son père, elle vit une vie de retraite et une vie de vierge consacrée. Et si elle rejette le mariage qu'on lui propose, nous disent les commentateurs de sa vie, si elle rejette le mariage qu'on lui propose, c'est qu'elle a épousé le Christ. Elle n'est donc pas une idéaliste, elle n'est pas évidemment une féministe, elle ne voit pas dans le mariage une sorte d'abaissement qui la soumettrait à un mari. Elle a déjà un mari. On ne comprend pas l'argumentaire de Sainte Agnès si on ne comprend pas qu'elle a déjà un époux et que, d'une manière, nous allons voir comment, eh bien, on lui propose de commettre une infidélité envers son époux pour se marier avec un homme, et a fortiori un païen. Donc ce n'est pas du tout une idéaliste, elle ne rejette dans le mariage que ce qui ne correspond pas à son état. C'est-à-dire qu'elle a épousé le Christ, elle ne peut pas épouser quelqu'un d'autre. C'est une vierge consacrée, nous l'avons dit, et il ne faut surtout pas l'oublier, de telle sorte que lorsque Saint Ambroise, par exemple, donne Sainte Agnès en exemple aux vierges, eh bien, évidemment, les jeunes filles chrétiennes qui vont se marier, dont le destin est de se marier, doivent prendre Sainte Agnès comme modèle de vertu et de chasteté. Bien entendu, c'est une personne qui n'a pas voulu commettre le péché, mais d'une façon plus précise, ce sont les vierges chrétiennes, c'est-à-dire les religieuses, les vierges consacrées, qui doivent et qui peuvent prendre Sainte Agnès comme modèle direct et univoque pour elles. Donc là aussi, il faut bien comprendre. Il y a donc dans l'histoire de Sainte Agnès quelque chose de fondamental à comprendre et dont il faut se souvenir, c'est que c'est une vierge consacrée. Maintenant, il se trouve que Vous le savez, ce qui frappe dans cette histoire, c'est la violence des propos de Sainte Agnès qu'elle adresse donc à Procope et à son père, le préfet de Rome de l'époque, qui lui propose le mariage. Ces propos ont été enregistrés par la tradition, et elle lui dit quelque chose comme cela: retire-toi, tison d'enfer, aiguillon de péché, pierre de scandale, appât de la mort. Ne pense pas que je puisse être infidèle à mon époux, à qui je suis tellement uni que mon âme ne vit que de son amour. Encore une fois, il ne s'agit absolument pas d'une jeune fille chrétienne lambda qui refuse de se marier. Il s'agit d'une vierge chrétienne dont les païens ne comprennent pas l'état, à laquelle on propose de devenir, si elle ne veut pas se marier, de devenir prêtresse de Vesta, ce qui correspond à peu près, mais d'une façon extrêmement, comment dire, imparfaite, à une sorte de vierge consacrée, mais chez les païens, et encore qu'elle n'était consacrée que pour une partie de leur vie, et avec toutes sortes de bémols. Enfin, donc, ils lui proposent, ils lui disent, ben, si tu ne veux pas te marier, pourquoi ne deviens-tu pas prêtresse de Vesta, et en faisant le sacrifice pour être agrégée à ce collège de prêtresses. Donc, elle le refuse d'autant plus énergiquement qu'elle y voit. Non pas, parce que un très grand honneur que d'être prêtresse de Vesta, à peu près comme les religieux, comme c'est un grand honneur d'être religieuse dans le christianisme. Donc, c'était un très grand honneur, mais en même temps, Sainte Agnès ne voit pas l'honneur qui lui est proposé, évidemment, mais elle y voit deux choses. Premièrement, elle y voit l'horreur qui consiste à sacrifier aux idoles, aux faux dieux, aux démons. Et d'un autre côté, elle y voit un abaissement, puisque il se trouve que ce serait renoncer à son état de vierge consacrée pour devenir non seulement païenne, mais en plus apostate. Donc participer à un collège païen, mais en plus devenir apostate. Donc nous voyons que d'une certaine manière, ce qui peut être une première explication de la violence des propos de Sainte Agnès, c'est qu'elle a pleinement conscience des devoirs de son état. Et que ses devoirs de son état et ses obligations de son état sont telles que tout ce qui vient vers elle comme une proposition pour contrevenir, eh bien, est considéré par elle comme quelque chose qui la ferait apostasier. Alors, littéralement, mais aussi à un second degré. C'est en cela que Sainte Agnès est un modèle pour tous les chrétiens. C'est un modèle d'attachement au devoir d'État. Elle se met en colère, en quelque sorte, d'une sainte colère, et ce n'est peut-être pas ce qu'il faut imiter littéralement, mais elle se met dans une sainte colère lorsqu'on lui propose de sortir de son état. Évidemment, il y a eu un contresens fait le préfet de Rome qui voulait demander sa main pour son fils. C'est qu'il a cru, comme elle était de très haute noblesse et que lui était d'une noblesse moins haute, il a cru dans un premier temps, il a cru qu'elle méprisait son fils parce qu'elle le considérait, ce mariage, comme une mésalliance. Mais lorsque très rapidement ce malentendu a été dissipé, il s'est aperçu que tout simplement, si l'on peut dire, la clé de l'affaire, c'était qu'elle était chrétienne et qu'eux étaient païens. Et c'est pour cela qu'elle ne voulait pas se marier avec un païen, a fortiori, puisqu'elle était une vierge consacrée. Il y a là quelque chose de très important qui ne peut être compris qu'à la lumière de la différence entre les hommes qu'opère le baptême. C'est-à-dire que c'est une chose qui, depuis un certain temps, qu'on a complètement perdu de vue. C'est qu'il y a entre le baptisé et le non-baptisé, moralement parlant, j'entends, la même distance qu'il y a entre l'homme et la bête. Alors je ne dis pas que les non-baptisés ne sont que des bêtes, je ne dis pas cela, mais je dis qu'il se trouve que lorsque l'on comprend et que l'on saisit ce que le baptême fait de l'homme, on s'aperçoit que, ou bien on peut dire qu'il y a entre le baptisé et le non-baptisé la différence qu'il y a entre l'homme et la bête, ou alors, si vous voulez, mais ce sont des termes de comparaison qui n'existent pas vraiment parce que ça n'existe pas, mais qu'il y a entre un surhomme et un homme. Mais qu'est-ce qu'un surhomme? Alors, il se trouve que il y a la distance qui sépare le baptisé du non-baptisé, c'est la distance qui sépare l'homme de la bête. Moralement parlant, d'une certaine manière, mais sous un certain rapport, ontologiquement parlant aussi. Parce que le baptême n'est pas simplement un rite agrégatif à l'Église, ce n'est pas simplement une étiquette qu'on pose sur quelqu'un, ce n'est pas simplement un diplôme que cette personne aurait acquis, comme on peut acquérir un diplôme quand on va à l'université, par exemple. C'est quelque chose qui, c'est un rite qui imprime dans l'âme, donc c'est-à-dire dans la constitution même de l'être humain, un caractère qui fait que, tant qu'on n'a pas reçu le baptême, ce caractère n'est pas dans l'âme. Or, même si l'on apostasie son baptême, si l'on renonce à son baptême, le caractère demeure dans l'âme. Le caractère sacramental est quelque chose d'objectif qui s'incruste, si l'on peut dire, si le mot est permis, dans l'âme. De telle sorte que ce n'est pas un supplément d'âme qui vient, en quelque sorte, doter l'homme normal de quelque chose d'un peu mieux, un peu comme si on mettait une puce, vous voyez, dans un homme, et puis c'est ça, et pourquoi à partir de là, il pourrait ouvrir simplement par la force de sa pensée, la porte de son garage, ou allumer les lumières, vous voyez, des choses absolument fondamentales. Non, ce n'est pas cela. C'est-à-dire qu'on ne peut comparer la différence entre le baptisé et le non-baptisé qu'entre l'homme, la différence qu'en posant la différence qu'il y a entre l'homme et la bête. Encore une fois, il ne s'agit pas, si vous êtes non baptisé que vous entendez ces paroles, ne pensez pas que le christianisme vous traite de bête. Mais il se trouve que l'état de non baptisé est un état tellement lamentable, c'est un état, comme dit saint Paul, animal, c'est-à-dire c'est un état où l'homme est esclave de lui-même, c'est-à-dire il est esclave du diable aussi, de telle sorte qu'il est dans une incapacité de faire quoi que ce soit qui puisse être appelé une œuvre bonne, c'est-à-dire une œuvre méritoire. Certes, il est capable d'œuvres bonnes, sinon ça se saurait. Mais il se trouve que ces œuvres bonnes ne lui servent à rien. À strictement parler, devant Dieu, le non-baptisé qui donne tous ses biens aux pauvres et le non-baptisé qui commet un génocide font à peu près la même chose du point de vue méritoire. Évidemment, pas du point de vue social, pas du point de vue de la rétribution temporelle, hein, bien entendu. Mais il se trouve que du point de vue méritoire, l'un ne mérite pas plus le ciel que l'autre ne le démérite. Les deux vont en enfer. Vous allez dire, mais c'est terrifiant. Donc ça veut dire que l'homme non-baptisé est incapable de faire aucune œuvre bonne. Si vous comprenez par œuvre bonne une œuvre méritoire, oui, c'est certain, il est impossible de mériter quoi que ce soit quand on n'est pas baptisé, sinon l'enfer. On ne peut faire d'œuvre bonne, c'est-à-dire d'œuvre véritablement bonne qui plaise à Dieu, que dans la mesure où l'on a reçu cette marque, ce caractère dans son âme, qui est le caractère de fils de Dieu. Il y a une autre pour en quelque sorte, replacer cette différence, cette comparaison de l'homme et de la bête dans son contexte, nous dirions qu'il y a une autre comparaison que l'on peut faire entre le baptisé et le non-baptisé, c'est l'ange et le démon. Qu'est-ce que le démon ? Le démon, c'est comme l'ange, c'est-à-dire c'est un ange, il a une nature angélique, c'est un esprit angélique. La seule chose, c'est une créature qui est totalement privée de la lumière, et qui est tout entière dans la révolte de Dieu, révolte contre Dieu. Il y a donc la différence entre l'homme baptisé et l'homme non baptisé, et on pourrait prendre la comparaison entre l'ange et le démon, même si l'homme et la bête, c'est plus vrai, disons, d'une certaine manière, parce que les hommes ne peuvent pas littéralement être comparés aux anges. Il y a donc la différence entre un fils de Dieu et un enfant esclave du diable. C'est quand même pas une petite différence. Donc pourquoi disons-nous cela ? C'est parce que il se trouve que nous ne pouvons pas comprendre l'horreur qui fut celle de Sainte Agnès, à plusieurs degrés, mais lorsqu'elle se vit proposer le mariage avec un païen, on ne peut pas comprendre son horreur tant qu'on n'a pas compris que nos pères dans la foi, les chrétiens d'avant, c'est-à-dire les vrais chrétiens, que nous essayons d'être aussi, mais on concevait une différence infinie d'état entre l'homme baptisé et l'homme non baptisé. Le fait de se marier avec une personne non baptisée, ce n'est pas une personne qui est en catéchumène ou une personne qui est touchée par la grâce, qui est en train de se convertir. Je ne dis pas que l'homme qui est en chemin vers Dieu n'est pas se rapprochant de Dieu n'est pas capable, entrant dans la lumière de l'Église, n'est pas déjà capable, disons, de certaines choses, bien entendu. Mais il se trouve que là, ce n'était pas quelqu'un qui était un catéchumène, c'était un pur païen qui n'avait absolument aucune idée du christianisme, ou plutôt une idée totalement négative, et qui, comme nous le savons dans la suite de l'histoire, qui n'a pas hésité, dès qu'il a vu que finalement cette jeune fille noble à laquelle au mariage avec laquelle il aspirait n'était pas de ses idées, il n'a pas hésité à vouloir la violenter, à faire toutes sortes d'horreurs, ce qui montre sa valeur en réalité, la valeur même humaine de cet individu. Donc, il se trouve qu'on ne comprend pas la sainte colère de Sainte Agnès tant que l'on n'a pas dans son esprit, en tant que chrétien, une très ferme conscience, très nette conscience de la différence qu'il y a entre le baptisé et le non-baptisé. Cela doit nous faire comprendre que les unions mixtes volontaires, je ne parle pas des gens qui sont mariés puis qui se convertissent et du coup il y a un déséquilibre. Bon, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Dieu donne des grâces spéciales et puis ceux qui sont mariés dans le couple de gens mariés, eh bien doivent être les instruments par la volonté de Dieu et par la grâce de Dieu, de la conversion, de l'illumination de leur conjoint. C'est pas du tout ça la question. Mais quand un chrétien envisage tout simplement de se marier avec une personne non chrétienne, c'est une personne qui commet un acte de folie, puisque Saint Paul nous dit qu'il n'y a aucun lien et aucune cause commune entre Dieu et Bélial, entre la lumière et les ténèbres. Il ne faut pas se mettre sous le même joug avec les incroyants. Sainte Agnès, remplie de l'Esprit de Dieu et donnée en exemple à tous les chrétiens, est remplie d'une sainte colère à la seule idée de pouvoir être associée avec, par le lien du mariage, à quelqu'un qui est un non-baptisé. Cette simple perspective lui provoque en elle une sainte colère. Sainte Agnès, nous le voyons, n'est donc pas du tout victime de la méchanceté de gens qui voudraient la forcer à se marier, en plus très jeune, etc. Encore qu'à l'époque, c'était le... Et même selon le droit canonique, c'est l'âge canonique quand même pour se marier. Mais disons, ce n'est pas du tout cela la question. La question, c'est qu'elle est outrée par le fait qu'un enfant du diable ose proposer le mariage à une enfant de Dieu. Grande leçon de discernement, grande leçon aussi de séparation entre le bon grain et l'ivraie, si j'ose dire, en tout cas jusqu'à autant qu'on le peut. Grande leçon aussi, en quelque sorte, de christianisme à tous ceux qui vont trouver dans d'autres religions des comparaisons justement entre l'homme et l'animal et s'imaginent que le christianisme étant la religion humaniste par excellence, le christianisme considère que tous les hommes sont tout à fait égaux et de même nature et que le baptême n'est jamais qu'un petit chapeau pointu qu'on met sur la tête de quelqu'un, de la personne qui a été invitée à quelque anniversaire spirituel. Alors que, vous voyez, et on dit, regardez, dans telle religion, on traite les non-participants de leur religion comme des bêtes. Et d'une certaine manière, bon, c'est libre à eux de s'exprimer comme ils le veulent, mais il se trouve qu'il y a la même comparaison chez les chrétiens. Vous voyez ? Donc, lorsqu'on critique quelque chose, une comparaison qui, dans l'absolu, et surtout référée au rapport du baptême, est tout à fait juste, lorsqu'on critique cette comparaison et qu'on se glorifie que le christianisme n'établit pas cette comparaison, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas chrétien. Tout simplement. On est un imbécile, on est un gros imbécile, parce qu'on ne fait aucune différence qualitative entre un homme baptisé et un homme non baptisé, alors qu'il y a en réalité entre les deux la distance qu'il y a entre l'homme et la bête. Voilà la réalité du christianisme. Voilà l'origine de la colère de Sainte Agnès, cette sainte colère qui lui a valu eh bien, d'être maintenant une épouse préférée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a valu d'être représentée par les représentations picturales anciennes avec des vêtements d'impératrice, couverte des bijoux que son époux, dit-elle, lui a donnés, qui sont toutes les grâces sanctifiantes que Dieu donne et qu'il ne donne qu'au sein même de l'Église et qu'il ne donne pas à l'extérieur de l'Église. À l'extérieur de l'Église, il n'y a aucune grâce sanctifiante. Il n'y a que des grâces d'appel, des grâces de conversion, des grâces qui attirent vers l'Église. Dieu ne donne sa grâce sanctifiante qu'au sein de l'Église et absolument pas en dehors. Il y a une différence, mes très chers frères, une très grande différence entre les enfants de Dieu et les enfants esclaves du diable. Il n'y a aucune possibilité d'union entre la lumière et les ténèbres. Donc vous voyez, mes très chers frères, lorsque l'on considère Sainte Agnès et lorsqu'on voit ce feu divin qui l'anime, cette colère qui est une colère divine, la colère même de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Temple, voyant les honteux commerces qui se faisaient dans le Temple, enfin en tout cas l'esprit de lucre qui y était, Sainte Agnès ne peut absolument pas être plainte. C'est encore une fois insulter aux martyrs que de les considérer comme des victimes. Donc ne plaignons pas Sainte Agnès, ne disons pas non plus que Sainte Agnès était une jeune fille qui entendait bien ne pas se marier trop tôt afin de pouvoir bâtir une carrière, afin de pouvoir aussi, comme on le dit aujourd'hui, alors c'est tout à fait extraordinaire ce qu'on entend, mais enfin les temps sont durs, pour pouvoir bâtir sa personnalité indépendamment de celle de son futur époux, de telle sorte qu'elle puisse exister sans lui, qu'elle puisse avoir une autonomie affectivo-sentimentale, mentale, etc. Mais ce sont des horreurs qu'on enseigne aux jeunes christianoïdes de notre époque. C'est une chose tout à fait extraordinaire que de voir que l'on enseigne aux jeunes filles justement que si elles ne doivent pas commettre toutes sortes de péchés, c'est parce qu'elles doivent former leur caractère, elles ne doivent jamais laisser un homme en quelque sorte dominer sur elles, de telle sorte qu'elles lui soient totalement inféodées. Mais ça s'appelle tout simplement le mariage chrétien. Vous voyez, Sainte Agnès n'est pas de ces jeunes filles-là. Ces jeunes filles-là ne sont que des féministes, ou plutôt, elles sont enseignées dans cette perspective-là. Sainte Agnès n'est pas une jeune fille qui a été privée de la vie, qui a été privée de la possibilité de faire des études, vous voyez, la possibilité d'avoir une carrière, avoir une vie normale, comme on dit, une vie normale selon le monde. La vie normale de Sainte Agnès, quelle était? Quelle était-elle? Si Sainte Agnès avait vécu, quelle aurait été sa vie normale, justement? Ça aurait été une vie de vierge consacrée, c'est-à-dire une vie de solitude, une vie de mortification, une vie de contemplation, une vie de pénitence. En arrachant Sainte Agnès à cette vie qu'elle avait déjà commencé à vivre, puisqu'elle était déjà consacrée au Christ, et l'Église avait déjà sanctionné son vœu, eh bien, en arrachant Sainte Agnès à cette vie-là, le monde... ne voulait faire d'elle une parjure et une apostate. Vous comprenez la colère de Sainte Agnès qui ne supportait pas la perspective, elle qui était enfant de Dieu, de passer volontairement sous la tyrannie de la concupiscence, manifestée par la mauvaise attitude de ce jeune homme qui, après lui avoir déclaré sa flamme et l'avoir invité à se marier avec lui, eh bien, n'a pas, encore une fois, hésité à vouloir la profaner par la suite. C'est donc injurier Sainte Agnès que de la plaindre. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui plaint Sainte Agnès, mais il ne faudrait pas s'imaginer que Sainte Agnès est le modèle des jeunes filles qui refusent le mariage afin de pouvoir bâtir leur vie. C'est absolument le contraire. Sainte Agnès est, à strictement parler, le modèle des religieuses qui refusent absolument tout ce qui pourrait les faire sortir de leur état qui est parfait, qui est saint et qui est tout à fait enviable par rapport à tous les autres états que l'on trouve dans la vie chrétienne. Cela nous amène à nous pencher, en deuxième point, sur l'oraison. Il y a quelque chose de magnifique dans cette oraison. Écoutez-la. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui choisissait les faibles de ce monde, pour les choses faibles de ce monde, afin de confondre les choses fortes. Rendez-nous sensibles en cette fête de la Bienheureuse Agnès, votre Vierge et Martyre, le bienfait de son patronage auprès de vous. Si nous voulons louer et bénir Dieu pour le martyre de Sainte Agnès, sachons ce que nous devons demander en ce jour. Nous demandons, ce n'est pas très difficile à comprendre, le patronage, le bienfait du patronage de Sainte Agnès auprès de Dieu, à notre intention. Ce Dieu dont nous auquel nous demandons le patronage de Sainte Agnès, ce Dieu est appelé Omnipotens Sempiterne Deus, Dieu tout-puissant et éternel. C'est donc, nous dit un commentateur qui a commenté cette oraison, c'est à Dieu que nous nous adressons. Dans les fêtes des saints, nous ne nous adressons jamais aux saints eux-mêmes, ça c'est une pratique universelle de l'Église, mais nous nous adressons au Dieu qui est le seul saint et qui fait les saints. Donc c'est à Dieu même que nous nous adressons, c'est lui qui fait les saints, dans le sens où il imprime l'image de son Fils en eux, qui est appelé le Solus Sanctus, le seul saint véritable. Les saints, que sont les saints? Ce sont les chefs-d'œuvre de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. C'est pour cela que le Dieu tout-puissant dont il est question ici, c'est le Dieu de la grâce efficace. Ce n'est pas le Dieu de la grâce générale, ce n'est pas le Dieu de la grâce suffisante, c'est le Dieu de la grâce efficace. Et cette grâce efficace, bien sûr, et si j'allais dire malheureusement, a divers impacts, ou divers effets, diverses opérations dans les divers chrétiens, de telle sorte que il se trouve que les auteurs nous disent qu'il y a autant d'effets différents, la grâce sanctifiante chez les chrétiens, qu'il y a d'ordres angéliques. C'est une comparaison pour dire que tous les chrétiens ne bénéficient pas des effets de la grâce, de l'opération de la grâce sanctifiante de la même manière. Je dis c'est bien dommage, je dis c'est triste, parce que nous voudrions tous être les plus parfaits possibles. Mais il se trouve que certaines choses empêchent Dieu, ou empêche la grâce d'agir. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, diverses choses, très rapidement, c'est notre méchanceté, c'est la dureté de notre naturel auquel nous tenons absolument, mais c'est aussi le mystère de l'élection divine qui fait parmi ses enfants, eh bien, certains des Saintes Agnès, certains des Dismas, certains des Saints Dismas. Sainte Agnès, c'est une enfant chrétienne qui a été élevée très méticuleusement par ses parents dans la foi chrétienne et qui a mérité, et auquel Dieu a permis de mériter, à laquelle Dieu a permis de mériter d'être l'une des, peut-être la plus grande martyre parmi les femmes de l'Église. Et Saint Dismas, eh bien, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le crime et qui a reçu à l'extrême fin de sa vie, quelques heures avant de mourir, la grâce de la conversion, et d'une véritable conversion, d'une véritable charité, d'une charité parfaite et d'une contrition parfaite. Nous louons Dieu pour les deux, mais nous louons Dieu plus, d'une certaine manière, pour Sainte Agnès que pour Saint Dismas. Saint Dismas, on est presque là de l'ordre de la grâce, de l'opération extraordinaire de la grâce, parce que la grâce fait ce qu'elle veut et elle peut convertir un bandit sur une croix. Mais il se trouve que nous louons Dieu aussi pour l'opération ordinaire de la grâce, sous un certain rapport, poussée jusqu'aux limites de l'extraordinaire, même au-delà, dans le fait que cet enfant a été si bien correspondu à son éducation chrétienne, qu'elle est devenue la plus grande et la plus belle et la plus forte de tous les martyrs, de toutes les femmes martyrs que compte l'Église. Il se trouve donc, mes très chers frères, que les saints sont les chefs-d'œuvre de la grâce sanctifiante et de la puissance de Dieu qui fait ce qu'il veut avec les siens. Ils sont, nous dit l'Écriture, parfaits. Heureux ceux qui sont parfaits dans la voie. La voie, c'est la vie chrétienne. Heureux ceux qui sont parfaits. Cette perfection vient de la grâce de Dieu. Ils sont parfaits car Dieu est bon et il est la source et le principe de tout bien. Ce qui frappe dans la vie de Sainte Agnès, nous dit un auteur, c'est à Dieu qu'il faut le reporter. Et c'est lui-même encore que nous honorons dans ceux qui furent ses serviteurs et ses amis. Effectivement, si nous nous sentons portés à rendre les plus grands honneurs à Sainte Agnès, c'est parce que en elle, la grâce de Dieu se manifeste en plein, de telle sorte que louer Sainte Agnès, c'est louer Dieu, et louer Dieu, c'est nécessairement aussi faire rejaillir un peu de cette gloire sur Sainte Agnès, et c'est ce que l'Église a fait en nous la proposant comme un des modèles les plus parfaits de martyrs. Vous, Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avez choisi les choses les plus petites, infirma, Mundi, vous qui avez élu les choses les plus petites, les plus faibles du monde, afin de confondre les fortes. Alors, c'est une parole de Saint Paul qu'il nous faut bien comprendre. Et c'est là où nous essaierons maintenant de dissiper certaines équivoques qui n'ont lieu qu'en contexte de la modernité. Vous qui choisissez les choses faibles du monde pour confondre les fortes. La toute-puissance de Dieu se sert de ce qu'il y a de plus faible pour confondre ce qu'il y a de plus fort. C'est le miracle de la force. Nous admirons dans la martyre de Sainte Agnès le miracle de la force et de la constance donnée par Dieu. Elle a résisté à la violence des hommes, à la violence du feu, et enfin, elle n'a pas craint la violence de l'épée. Dieu, d'un côté, du point de vue divin, fait éclater la puissance de sa grâce dans les objets les plus faibles. Si Sainte Agnès avait été un homme, et si ça avait été un homme extrêmement fort, extrêmement endurant, quelqu'un qui aurait pu résister à la violence des hommes, qui aurait pu ne pas craindre la violence de l'épée parce qu'il était tellement bien aguerri qu'il pouvait encaisser des coups sans être trop blessé, d'une certaine manière, nous admirerions plutôt la force de la nature. Vous voyez ? Tandis que nous admirons Dieu dans le fait que cette jeune fille de 13 ans était absolument incapable de résister à quoi que ce soit, ni au feu, ni à la violence, ni à l'épée. Et si elle leur a résisté et elle a triomphé, c'est, nous dit la géographie, c'est qu'elle a été assistée de son ange gardien, elle a été fortifiée par la grâce toute puissante du Dieu Tout-Puissant, et elle a été de cette manière, elle a été élue pour être assistée de cette manière, justement parce qu'elle était absolument incapable de résister à quoi que ce soit à cause de son très jeune âge et de la fragilité de son corps. Dieu se plaît donc à manifester sa toute-puissance dans des objets qui ne sont absolument pas capables de capter pour eux la gloire des effets de cette toute-puissance. Si Sainte Agnès avait, par impossible bien entendu, survécu, elle n'aurait jamais pu dire, eh bien oui, c'est parce que je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, et donc j'ai pu me défendre, je fais du Krav Maga, c'est pour ça que Procop n'avait rien pu me faire. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle aurait dit ? Elle aurait dit, je ne sais pas comment ces choses-là ont pu se passer, comment j'ai pu survivre, c'est la grâce de Dieu. Eh bien, évidemment, elle était vouée à quelque chose de plus glorieux que simplement survivre au martyr. Donc il se trouve qu'au ciel, du haut du ciel, elle nous dit « Regardez-moi, en me voyant, vous ne voyez pas quelque chose d'humain, vous ne voyez que la faiblesse, et vous ne voyez que la grâce de Dieu. » Sous un certain rapport, moindre évidemment, mais elle est comparable à la Sainte Vierge, la très Sainte Vierge Marie, qui elle-même étant pur néant d'opposition à Dieu, est totalement pleine de grâce, de telle sorte qu'elle est la mère de la grâce divine. Eh bien, sous un certain rapport, car Sainte Agnès est l'une de ses filles les plus glorieuses, Sainte Agnès aussi est tellement un néant de force humaine que toute sa puissance, toute sa force et ce caractère indomptable, cette sainte colère qui l'a animée d'un bout à l'autre de son martyr, eh bien, n'est que la manifestation dans un vase extrêmement fragile, de la toute-puissance de Dieu. Et c'est pour cela que nous louons Dieu lorsque nous louons Sainte Agnès. Maintenant, il se trouve que, sous un autre rapport, Dieu est aussi celui qui a fondé et établi l'ordre naturel. L'ordre du mariage, donc, l'ordre de la suprématie de l'homme sur la femme, etc., la soumission des inférieurs aux supérieurs, etc. Donc, on pourrait se dire, ce verset, malentendu, peut-être aussi pourrait être utilisé pour subvertir l'ordre naturel que, par ailleurs, Dieu a fondé. Et c'est pour cela qu'effectivement, il faut bien le comprendre, mais dans la mesure où simplement on le lit correctement, on s'aperçoit que cette crainte se dissipe totalement. Écoutez pourquoi. Il se trouve que Dieu est le principe de tout bien. Dieu fonde donc l'ordre naturel sur lui-même et il le corrobore de façon paradoxale afin de pouvoir le rendre plus fort. Qu'est-ce que ça signifie ? Il n'a jamais été dit que Dieu fait des forts des faibles et fait des faibles de ce monde et bien en tant que faibles les triomphateurs des forts. Ce n'est absolument pas cela, ce n'est ni le sens du Magnificat ni le sens de ce verset de saint Paul et a fortiori de cette oraison. Qu'est-ce que ça signifie donc? Ça signifie que Dieu ne fonde pas un ordre nouveau subversif de l'ordre naturel. Il se manifeste comme le principe de l'autorité et de la puissance légitime en mettant ceux qui la détiennent en face de leur archétype, c'est-à-dire de Dieu lui-même, afin qu'ils s'y conforment et qu'ils deviennent parfaits eux-mêmes. Mais pour rendre parfait un prince, pour rendre parfait un préfet de Rome, pour rendre parfait une personne qui est en position d'autorité légitime, on ne peut pas, la pédagogie divine ne peut pas lui présenter directement son archétype qui est Dieu, parce que sinon il ferait un raccourci qui l'enorgueillirait. Et c'est pour cela que les empereurs romains qui voulaient être adorés comme Dieu, qui exigeaient qu'on leur rende un culte comme Dieu, se voyaient opposer le refus des chrétiens, chrétiens qui, dès lors qu'ils ont eu des empereurs et des rois catholiques, se sont empressés, par la voix de leurs théologiens, de reconnaître en eux la puissance divine et même la figure de Dieu. On va dire que c'était bien la peine de résister à l'empereur qui se divinisait, alors que les rois et les empereurs chrétiens, on n'a jamais parlé d'eux que comme des dieux sur terre. Effectivement, ce n'est pas du tout un paradoxe. C'est qu'il y a chez l'empereur païen qui sait très bien qu'il n'est qu'un homme et qui se fait rendre les honneurs divins comme on les rend univoquement aux dieux ou à Dieu, il se trouve qu'il y a une captation qui montre que cet homme n'est qu'un homme et qu'il est incapable. À la rigueur, le roi de France, touchant les écrouelles et guérissant les écrouelles le jour de son sacre, a beaucoup plus de puissance effective, divine, que l'empereur qui se fait offrir de l'encens et qui est incapable de guérir même le moindre ulcère de ses sujets. Donc vous voyez, il y avait quelque chose d'usurpateur que Dieu ne pouvait pas rectifier sans utiliser un moyen paradoxal. Si les théologiens, si les papes de l'époque des empereurs romains, des empereurs païens, étaient allés avec des manuels de théologie en disant « Regardez, Monsieur Majesté, vous êtes le représentant de Dieu, ce dont ils ne doutaient absolument pas, mais vous êtes le lieutenant de Dieu sur la terre, vous êtes dépositaire du glaive, de l'autorité légitime, Dieu est lui-même votre archétype et votre modèle, conformez-vous à lui ». Et qu'est-ce qu'il aurait dit l'empereur ? Il aurait dit, mais c'est exactement ce que je fais, est-ce que vous refusez d'entériner, puisque vous refusez de me rendre les honneurs divins ? Il fallait, pour refonder, ou c'est-à-dire fonder à nouveau, dégager les principes de l'ordre naturel fondé par Dieu, donc de l'ordre patriarcal, l'ordre naturel, il se trouve qu'il fallait que Dieu utilise les choses les plus vaines, les plus folles, les plus faibles du monde, comme une toute petite fille de 13 ans, pour manifester que c'était lui le Tout-Puissant, de telle sorte que, en reconnaissant que le Tout-Puissant rend puissant celui qui se soumet à lui, les grands puissent par la suite comprendre que s'ils voulaient véritablement agir d'une façon méritoire en tant que lieutenant de Dieu, il fallait qu'il rende d'une part à Dieu le culte légitime qu'il lui devait, donc il devait se convertir bien entendu, mais aussi il fallait qu'il cesse de s'approprier univoquement ce qui faisait le propre de leur seul archétype. Est-ce que vous comprenez ? Donc si nous comprenons cela, il n'y a absolument aucune subversion, au contraire, il y a une restitution de l'autorité à elle-même, de telle sorte qu'il ne s'agit pas ici d'une négation des choses fortes, il s'agit d'une refondation des choses fortes dans le principe même de la hiérarchie et de leur honneur, qui n'est autre que Dieu, qui est seul fort. Comme lorsque nous honorons Dieu dans ses saints, nous disons « vous êtes seul saint », et bien de même lorsque nous honorons Dieu dans les autorités légitimes, nous disons « vous êtes seul tout puissant », et c'est pour cela que nous honorons le roi, selon la parole de saint Pierre. Il n'y a donc aucune subversion de l'ordre naturel, au contraire, il y a une confirmation de cet ordre naturel par un moyen paradoxal qui est nécessité par la dureté du cœur de l'homme, qui doit être en quelque sorte humilié pour comprendre même les choses qui lui sont fondamentales et qui lui sont nécessaires pour fonder sa propre autorité. Dans le discours de Sainte Agnès, il n'y a aucune subversion. Elle se réfère au fondement principiel de la hiérarchie. Elle ne dit pas « je ne veux pas me marier parce que la femme doit être libre de l'homme ». Elle dit « je ne veux pas me marier à un homme païen parce que je suis épouse, de par ma consécration à Dieu, du Verbe éternel de Dieu, qui est source de l'autorité que les hommes chrétiens ont sur leurs épouses ». Il est vrai aussi que les hommes païens ont une autorité sur leurs épouses, bien sûr, qui vient aussi du Verbe divin. La seule chose, son exercice n'est pas méritoire, puisqu'ils n'agissent pas consciemment en tant que lieutenant du Christ, mais ils agissent d'ailleurs de plus en plus inconsciemment, puisqu'ils en viennent aujourd'hui même à le nier catégoriquement. Bon, ça c'est une autre question qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Donc si les grands de ce monde chrétien ont honoré les martyrs que eux-mêmes ont fait, ou que leurs ancêtres ont fait, ou que leurs ancêtres dans leurs prédécesseurs dans l'autorité ont fait, eh bien, c'est toujours été pour rendre hommage au Dieu fort, au Dominus Sabaoth, au Dieu, l'Éternel des armées, qui leur reprochait leur appropriation à des fins de concupiscence de la puissance dont ils étaient les dépositaires et qui venait de lui. Vous voyez, lorsqu'un prince honore Sainte Agnès, lorsqu'un prince romain, un préfet de Rome chrétien honore Sainte Agnès, il n'est pas en train de fouler aux pieds la préfecture, il n'est pas en train de fouler aux pieds la principauté, simplement il manifeste qu'il a compris que s'il est un prince, c'est parce qu'il est un lieutenant de Dieu et qu'à ce titre-là, il ne peut pas utiliser la puissance qui est la sienne, qui est réellement et légitimement la sienne, à des fins de concupiscence. C'est pour cela que nous devons comprendre que lorsqu'il est dit que le Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les forts, confondre ici veut dire être appelé à la conversion, c'est-à-dire littéralement après la conversion du cœur, à être véritablement un reflet de Dieu dans l'ordre inférieur. Le prince qui se convertit, bien sûr, passe de l'état d'enfant du diable à l'enfant de Dieu, bien entendu, mais en tant que prince, est-ce qualité de prince, il se tourne vers Dieu, il se convertit vers Dieu, il se tourne vers Dieu, et alors là, il redevient en quelque sorte en plein le reflet de Dieu dans l'ordre de la nature. Un homme qui se convertit, mes très chers frères, ne se dégrade absolument pas. Au contraire, il renoue avec son archétype et il devient capable d'ordonner la nature qui, naturellement et selon l'ordre naturel, les natures qui, naturellement et selon l'ordre naturel, lui sont inféodées. Donc l'homme qui se convertit ne se dégrade pas, au contraire, il renoue avec son archétype. Heureux ceux qui sont parfaits dans la voie, qui suivent la loi du Seigneur. Nous en arrivons à notre troisième point. Heureux ceux qui sont parfaits. Un auteur nous dit « Tout ce qui se fait par la grâce est toujours disproportionné à la nature, parce que la grâce est toujours beaucoup plus généreuse et beaucoup plus forte que la nature. Mais ce qui se fait par la grâce dans Sainte Agnès est même disproportionné à la grâce ordinaire, car Dieu fait faire à cette âme, dans le premier âge de sa grâce, ce qui ne se fait d'ordinaire que dans le dernier. » Dans une hymne que l'Église a, dans la liturgie, on dit que Sainte Agnès s'est comportée, elle qui était une enfant, elle s'est comportée comme un vieillard, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire comme quelqu'un chargé d'années, chargé d'expérience, comme elle qui n'était qu'un tout petit combattant, elle a agi comme un vieux capitaine. La grâce en elle a été surabondante, de telle sorte que l'on peut dire qu'elle est supérieure aux séraphins, par l'amour dont elle a aimé le Christ. Les séraphins, nous le savons, ce sont ces anges qui, comme leur nom l'indique en hébreu, sont brûlants d'amour pour Dieu. Le séraphin est donc un des trois ordres d'anges qui sont les plus près de Dieu, et ils sont embrasés, d'ailleurs c'est le premier des ordres des anges, séraphins, chérubins ensuite, ils sont les premiers des anges, ils sont si près de Dieu, sous un certain rapport, qu'ils sont embrasés de l'amour dont Dieu est embrasé, puisqu'il est charité lui-même. Elle est comme un séraphin, de telle sorte que cette sainte colère dont elle a fait preuve est une sorte de manifestation de la charité poussée à son extrême. Elle est un séraphin et elle est plus qu'un séraphin. Pourquoi ? Eh bien, les auteurs nous disent que les séraphins, qui sont des anges parfaits et qui sont des anges qui sont faits pour aimer Dieu totalement jusqu'à en être embrasés, suivent leur nature. Certes, ils ont eu un choix à faire un jour, ils l'ont fait, et maintenant ils sont confirmés. Mais ils sont confirmés dans leur nature d'être faits pour brûler de l'amour de Dieu. Ils suivent donc leur nature. Sainte Agnès était une créature humaine, de telle sorte que lorsqu'elle a été embrasée par l'amour de Dieu, selon la grâce qui lui a été donnée, elle a joint à cet amour pour Dieu quelque chose dont les séraphins sont incapables, et ce n'est pas pour les diminuer que nous disons cela, mais c'est à la gloire de Sainte Agnès et donc des martyrs, c'est qu'elle a accompagné cette charité de la souffrance du martyr. Et c'est en cela qu'elle est dite supérieure, que sa charité est dite supérieure à celle des séraphins. Elle a joint à l'amour qu'elle avait pour Dieu le parfait mépris envers elle-même. Les séraphins ne peuvent pas se mépriser eux-mêmes puisqu'ils sont totalement absorbés en Dieu. La créature humaine en état de voie, pour que sa charité soit parfaite, il faut que sa charité soit, sous un certain rapport, l'envers du mépris et du reniement, et du renoncement et du crucifiement, la crucifixion volontaire que l'homme, que le chrétien fait de lui-même. Et Sainte Agnès, nous le voyons dans les actes de son martyr, a méprisé tout ce qui faisait qu'elle était non seulement très belle aux yeux de Dieu, mais très belle aux yeux des hommes, parce qu'en réalité, c'était une jeune fille extrêmement belle, nous disent ses actes. Il se trouve qu'elle était très noble, puisqu'elle était d'une famille d'une très haute noblesse. Elle était très bien éduquée, de telle sorte que c'était une personne qui était tout à fait capable d'être une digne femme d'un digne époux de très haute condition. Tout ceci, elle l'a méprisé pour l'amour de son époux. Et son époux, ce n'est pas un époux, un peu comme on voit dans certaines histoires, la femme très riche, qui renonce à tout, qui s'entiche d'un miséreux, d'une sorte de clochard, et qui, d'une certaine manière, est folle amoureuse de celui dont elle a fait son mari, qui est une sorte de, encore une fois, donc de misérable, de clochard, qu'elle enrichit. Et donc, du coup, cette femme semble complètement folle de son mari, mais en réalité, d'une certaine manière, elle l'écrase complètement, puisque son mari ne peut absolument rien lui apporter, il ne peut... Quel homme, même miséreux, aimerait être épousé par une princesse qui le comble de bien, c'est de quoi être traumatisé pour toute sa vie et de paraître ridicule à ses propres yeux. Non, Sainte Agnès ne s'est pas entichée d'un Christ faible, d'un Christ qui lui proposait, qui se proposait à elle et que elle a choisi. Sainte Agnès était consciente, et là on est dans l'ancienne doctrine, on n'est pas dans l'église moliniste, Sainte Agnès était consciente, elle qui n'était rien, et qui était, en quelque sorte, par tous les dons de la nature, c'est-à-dire la noblesse, la beauté, la jeunesse, etc., était plutôt sujette à être tentée de mésuser de tous ces dons de la nature. Sainte Agnès, qui savait qu'elle n'était rien et qui savait qu'elle était en très grand danger de tomber dans la concupiscence, elle savait qu'elle avait été élue de toute éternité, aimée par ce roi tout-puissant, cet époux glorieux, qui seul pouvait enrichir sa faiblesse. Et un peu comme Saint Paul, même s'il le disait pour autre chose, elle a considéré tous ses avantages, sa beauté, sa noblesse, etc., comme de l'ordure pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que, embrasée de cet amour de Dieu, dès qu'on lui a proposé les biens du monde, elle s'est embrasée tel un séraphin, elle s'est embrasée d'une sainte colère pour s'opposer aux tentations, ce qui lui apparaissait effectivement pour ce que c'était, c'est-à-dire des tentations, les tentations même de la concupiscence. Sainte Agnès est donc supérieure aux séraphins dans le sens où, comme eux, elle était embrasée, elle est toujours d'ailleurs, elle est embrasée de l'amour de Dieu, mais elle se jette elle-même dans l'holocauste de cet amour. Elle se détruit elle-même dans son désir d'être unie à son époux. Elle vivait retirée, nous disent les auteurs, dans la partie supérieure de son âme, qui était unie à Dieu, et elle avait totalement triomphé de toute la partie inférieure qui était assomptionnée dans la supérieure. Elle avait triomphé de la concupiscence, elle avait triomphé de l'amour propre, elle aimait l'opprobre pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, elle aimait la mortification, la retraite, l'obscurité, la modestie, Et c'est parce qu'elle était une vierge consacrée à Dieu, qui était excellente et parfaite dans sa voie, qui était la voie de son état, que sollicitée par la providence, par le martyr, pour le martyr, elle a agi d'une façon qui lui a mérité un accroissement de grâce, et de telle sorte qu'encore une fois, c'est peut-être de toutes les saintes vierges martyrs, celle qui est la plus stupéfiante, la plus extraordinaire, la plus merveilleuse. Elle vivait entièrement unie au Christ dans la partie supérieure de son âme, la partie inférieure et son corps étant en quelque sorte assomptionné dans la partie supérieure. La charité, nous dit saint Paul, souffre tout. Et quand on voit le cas de sainte Agnès, on s'aperçoit que ce n'est pas une façon de parler quand on dit on supporte tout pour l'amour du Christ. Sainte Agnès a tout souffert, elle a voulu tout souffrir. Et c'est ça qui a mis un comble à sa charité. Les séraphins, si on leur proposait de souffrir le martyr pour Dieu, bien sûr qu'ils l'accepteraient, mais ils ne le peuvent pas, parce que ce sont des anges. Gloire à eux, mais ce sont des anges. Sainte Agnès vivait dans la perfection de sa voie, elle était parfaitement unie en tant que vierge consacrée à Dieu, elle était totalement unie à son époux, et elle a mis un comble à sa charité en souffrant tout, en souffrant d'être exposée à la violence des hommes, en souffrant d'être brûlée vive sur le bûcher, en souffrant d'être frappée par l'épée du bourreau. La charité souffre tout, sachant qu'il n'y a pas de gloire sans la crucifixion. Il n'y a pas de gloire sans l'ignominie. On ne peut pas s'attendre à triompher avec le Christ si l'on n'a pas souffert avec le Christ, pour le Christ et à cause du Christ. Admirons, mes très chers frères, admirons la force de cet enfant chrétienne, admirons la force de cet enfant, que la toute-puissance du Dieu fort, qui donne sa grâce à qui il veut, a fait son épouse et une des plus grandes martyrs, et que sainte Agnès nous l'obtienne aussi, cette grâce, ou du moins une partie de cette grâce, un peu de cette grâce, qu'elle nous obtienne par son puissant patronage, cette grâce d'aimer Dieu jusqu'au mépris de soi, et c'est ça qui fait les martyrs, et c'est ça qui fait que, eh bien, au-delà des chérubins, ces martyrs sont des chérubins et des séraphins, ces martyrs sont unis à ce Dieu qu'ils ont tant aimé. Puissions-nous, si Dieu le permet et si Dieu nous donne sa grâce, suivre les pas de sainte Agnès et vivre notre vie sous la puissante protection de cette glorieuse Vierge et Martyre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.